Alors, le sujet suivant, c'est la chronique Jouons Collectif de Vincent Calame, qui est bénévole à l'April et qui m'a envoyé le thème du jour. Et le thème du jour, c'est Google est ton ami.
Alors oui, quand j'ai envoyé ce sujet, Isabella, l'équipe de l'émission, Isabella m'a demandé en plaisantant si je n'avais pas oublié le point d'interrogation à la fin de ma phrase. C'est sûr que la volonté de Google et de ses comparses d'être présents partout dans notre vie, des téléphones aux voitures, en passant par les assistants domestiques qui nous écoutent toute la journée, fait que le mot ami dans le cadre de Google est mon ami nous fait plutôt évoquer le titre du film Harry, un ami qui vous veut du bien, que le titre du livre L'ami retrouvé. Cependant, j'avais pas la volonté d'être ironique dans le choix de mon titre, enfin, pas trop. En fait, je pensais plutôt à une époque où Google n'était pas encore devenu Alphabet, qui est le nom de la maison mère actuelle, et où il n'était encore que le moteur de recherche qui a fait sa célébrité. À cette époque, il y a bon, plus de 10 ans, Google et ton ami n'étaient pas une plaisanterie sur Google lui-même, mais plutôt une pique qu'on utilisait pour taquiner son interlocuteur.
Alors peut-être préciser pour les personnes qui ne connaissent pas que Harry, un ami qui vous veut du bien, en fait, c'est un film en 2000 où Michel retrouve par hasard un ami d'enfance prénommé Harry. Et Harry va s'insinuer progressivement dans la vie de Michel et va se mettre à éliminer toutes les personnes qui, selon lui, peuvent nuire à l'épanouissement de Michel. Et à l'inverse, L'ami retrouvé, c'est un livre de Fred Ullman qui raconte la forte amitié entre le narrateur, fils d'un médecin juif, et un jeune aristocrate pendant la montée en puissance d'une régime nazi en 1932 à Stuttgart. Alors pour revenir donc au thème la plaisanterie Google est ton ami, qui était une pique comme tu disais pour taquiner son interlocuteur, à quelle occasion utilisait-on cette expression?
Alors très souvent, c'était dans les forums ou les listes de discussion d'entraide, quand une personne posait une question dont la réponse se révélait être à portée d'un seul clic ou de quelques mots-clés. Et souvent, la bonne âme qui lui répondait, malgré tout, le faisait en rajoutant Google est ton ami, histoire de rappeler à la première personne qu'elle aurait pu faire l'effort de faire la recherche elle-même. Moi-même, dans mon cadre professionnel, je pense souvent à cette phrase Google est ton ami quand on me pose une question, mais je ne le dis pas, parce que là, mon but n'est pas de taquiner ou de mettre à l'aise mon interlocuteur. Parce que je sais que là, je vais souvent trouver la réponse en faisant une recherche sur Internet. Alors, cependant, moi, pour la défense des personnes qui posent ce type de questions, il faut quand même rappeler que chercher s'apprend. Ce ne sont pas les documentalistes qui me contrediront. Toutes les réponses ne se trouvent pas du premier coup. Hein. Quand je fais une recherche, parfois nécessaire d'affiner la recherche quand il y a trop de résultats sans rapport avec la question qu'on avait en tête. Et puis, bon, quand le sujet est technique, il faut aussi savoir souvent la traduction en anglaise de ce qu'on cherche, car il y a de fortes chances que la réponse se trouve que dans cette langue.
D'accord. Et les moteurs de recherche, en fait, restent une porte d'entrée majeure aujourd'hui sur Internet. On peut peut-être mettre le point d'interrogation avec Google est ton ami, non?
Oui, surtout si on se place de l'autre côté, non pas celui de l'internaute qui circule sur Internet, mais plutôt sur celui des gestionnaires de sites. Moi, je m'occupe du développement technique de plusieurs sites de ressources documentaires. Il y a quelque temps, j'ai reçu un appel angoissé du responsable d'un de ces sites qui avait vu les statistiques de fréquentation s'effondrer du jour au lendemain. Et ça s'est effondré parce que plus aucune visite ne venait d'une recherche Google. Bon, alors, au final, on s'est rendu compte que le problème venait de chez nous, c'était un certificat de sécurité non renouvelé. Mais c'est vrai que pendant quelque temps, nous avons craint d'avoir été mis sur la liste noire par Google sans pouvoir en repérer la raison. Surtout qu'aucun contenu particulier n'avait été mis en ligne au moment de la chute. C'était un vendredi en milieu de journée, donc sans raison. C'est vrai que pour les sites que je suis, les statistiques de fréquentation sont inclaquables. Plus de 80% des visiteurs arrivent via un moteur de recherche. Et parmi eux, plus de 90% viennent de Google. Donc là, effectivement, pour ces sites, ne plus être présent sur Google, c'est pratiquement la mort numérique, quoi.
Alors tu parles de mort numérique, est-ce qu'il y a un espoir face à ce monopole?
Oui, non, bien sûr. Après, on existe toujours sur Internet, même si on a moins de fréquentation, hein, c'est pas non plus dramatique. Simplement, c'est plutôt, d'ailleurs, c'est plutôt vis-à-vis des bailleurs de fonds ou des choses comme ça que ça peut poser problème d'avoir des mauvaises statistiques. Mais évidemment, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur cette situation. D'autres moteurs de recherche existent et tentent de se faire une place. Hein, citons le dernier né qui est Quant, une initiative française. Alors, je trouve ce qui est intéressant, c'est que du point de vue du logiciel libre, je dirais que le problème, c'est pas tant le logiciel lui-même et l'algorithme. Bon, Google a son propre algorithme et des moteurs de recherche libre existent comme Lucene. Le problème, c'est tout simplement l'infrastructure nécessaire pour faire tourner un tel moteur, à la fois pour fournir des réponses rapidement et indexer toutes les pages de la toile en permanence, qui sont un nombre incommensurable. À titre de comparaison, là, récemment, l'encyclopédie Wikipédia a fait une campagne de dons, comme elle le fait régulièrement, rappelant que l'infrastructure pour héberger une telle encyclopédie a un coût. Je pense, pour un moteur qui serait libre et sans publicité, il faudrait, pour financer son infrastructure, une collecte de dons, je pense, bien, bien supérieure même à celle de Wikipédia, et nous en sommes encore loin. Alors, moi, je pense qu'une des pistes, en attendant, ça vaut aussi, pour ne pas être dépendant de ces moteurs de recherche, quels qu'ils soient, d'aussi de réfléchir à des modes d'accès alternatifs à l'information, hein, quitter peut-être le réflexe de juste taper dans sa barre de recherche. Je pense à la diffusion via des réseaux sociaux libres, et puis pourquoi pas penser à une nouvelle génération, une nouvelle forme des portails Internet. Hein, c'est un concept qui fleure bon les années 90 et qui ont été balayés par l'efficacité de Google, mais je me dis que c'est peut-être un chantier à reprendre ou à repenser pour justement essayer de perdre aussi ce réflexe de la recherche.
Réflexe de la recherche qui est aussi renforcé par le fait aujourd'hui que la plupart des gens confondent navigateur web et moteur de recherche, parce qu'en fait, quand ils lancent un navigateur web, que ce soit navigateur de Microsoft ou Firefox, leur premier réflexe, c'est de taper dans la barre de recherche en haut, et en fait, ils pensent finalement que le navigateur web et le moteur de recherche, c'est exactement la même chose.
Oui, d'ailleurs, l'interface même a évolué, parce qu'avant, il y avait deux champs différents, un champ pour taper l'adresse et un champ pour taper la recherche, et sous des prétextes
de simplicité,
à mon avis fallacieuse, on a une confusion complète donc des actions là-dessus. Donc c'est effectivement les outils eux-mêmes nous poussent à agir là-dessus en recherche. Alors je parle pas même des assistants personnels où là c'est carrément je pose une question à l'oral et un algorithme est censé me trouver l'information.
Assistant personnel qui aujourd'hui enregistre les conversations. Donc maintenant, quand on va chez des amis, il faut se demander s'ils ont un assistant personnel pour demander qu'ils soient déconnectés pour avoir une discussion tranquille.
Voilà, alors là, c'est encore un autre aspect, mais voilà, il y a toujours le piège de la simplicité. Effectivement, les amis qui vous veulent du bien, qui veulent vous simplifier la vie, qui veulent vous vendre des produits qui répondent à des besoins que vous n'aviez pas avant et qui font naître ces besoins, sont toujours suspects. Il faut toujours se poser de la question s'il n'y a pas une idée derrière ou s'il n'y a pas un loup derrière.
Donc finalement, c'est pas en fait les assistants personnels ne devraient pas s'appeler Alexa ou je ne sais quoi, ils devraient en fait s'appeler Harry.
Voilà, je pense que...
En référence au film, donc à Harry, un ami qui vous veut du bien, entre guillemets, on pourrait mettre. Bon, en tout cas, merci Vincent, c'était donc la chronique de Vincent Calame, Jouons Collectif. Je te souhaite une belle journée, puis au mois prochain.
Au mois prochain.